Salut à tous. Backseat, c'est LE talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le club Backseat pour 15 euros par mois en cliquant sur le lien dans la description.
Et bien, parce qu'on était là en train de raconter l'histoire des candidats, elle va nous parler des mémoires des candidats. Alors attention, pas la mémoire au sens de capacité cognitive, parce que depuis que Biden n'est plus dans la course, c'est pas nécessaire de parler de ça, mais au sens de quoi ? D'autobiographie, de comment il se raconte.
Ouais.
Emma, c'est à toi.
Oui, exactement. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, du coup, je me suis dit qu'avant des élections aussi cruciales, c'était vraiment intéressant de se plonger dans leur mémoire, comme tu disais si bien. Je parle de mémoire, on pourrait dire, et c'est autobiographique, voire manuel à succès pour Trump. Et effectivement, c'est vraiment passionnant de voir comment ils se racontent, ce qu'ils mettent en avant, voilà, ce que ça dit de leur vision politique.
Alors, de quel livre il s'agit, ou d'essai, ou je ne sais pas comment on dit, de quoi qu'on cause ?
Alors, on parle de L'Art du Deal, sorti en 87, que Trump a coécrit avec le journaliste
américain. Dont on vient de parler, d'ailleurs. Donc c'est...
Dont on vient de parler, effectivement, tout à l'heure.
Extrêmement bonne transition.
Ouais, et c'est Julien Volpré le disait tout à l'heure, justement, mais à l'époque, du coup, en 1987, Donald Trump est un mania de l'immobilier new-yorkais. Et dans ce livre-là, justement, il présente un peu ses tips, ses conseils, ses astuces pour qui voudrait l'imiter. Et au moment de sa sortie, le livre était vraiment un succès de librairie. Il y a eu plus d'un million d'exemplaires vendus et il est resté plusieurs semaines à la tête de la liste des best-sellers du New York Times. Et voilà. Donc après, il faut quand même rappeler qu'en 1987, le président des États-Unis, c'est Ronald Reagan. Donc le néolibéralisme à bonne presse et Trump incarne
président républicain.
Ce phénomène, ouais,
pour le rappeler.
Et donc voilà, pour Kamala Harris, bon, j'ai le livre là, j'avoue que j'ai lu la version numérique du livre de Trump, mais on va parler donc de Nos Vérités, Mon Rêve Américain, qui est une autobiographie beaucoup plus récente. Elle date de 2019, et en 2019, Kamala Harris, elle est sénatrice des États-Unis. Elle est fortement pressentie pour se présenter aux primaires du Parti démocrate pour les élections présidentielles de 2020. Et donc clairement, ce livre se présente un peu comme une sorte de manifeste politique, dans lequel elle raconte notamment son parcours judiciaire, comment elle a choisi de devenir procureure pour défendre le peuple contre, depuis l'intérieur du système.
Ok, génial. Est-ce qu'il y a des choses du coup dans ces ouvrages qui t'ont particulièrement étonnée et que tu voudrais partager avec nous?
Oui.
Des petits trucs?
Ouais. Il y a plusieurs choses qui m'ont étonnée. J'ai découvert beaucoup de choses, mais il y en a trois vraiment qui m'ont surprise. La première, c'est, je ne sais pas si vous saviez, mais Donald Trump a fait un cocard à son prof de musique quand il était en primaire.
Ok.
On le savait pas, mais est-ce qu'on est surpris?
Charmant, le mec.
Non, on n'est pas surpris.
J'ai pas entendu, il a fait un quoi?
Un cocard. Il a frappé son prof de musique.
Ah, d'accord.
Il l'a défoncé.
Il avait quel âge?
À l'école primaire, je crois qu'il avait 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et c'est surtout le motif de cet affront qui est rigolo, c'est qu'il l'explique en disant que le prof de musique n'y connaissait rien à la musique, et donc Donald Trump s'est énervé. Voilà, alors après, ce qui est rigolo...
C'est légite, légite.
Ouais, c'est ça, c'est assez surprenant, mais ce qui est drôle surtout, c'est la manière dont il le justifie. Il dit qu'il n'était évidemment pas fier de ce qu'il a fait, mais en ajoutant quand même que finalement, il a toujours été prêt à défendre ce qui comptait pour lui, défendre ses opinions.
Donc des remords, mais aussi des excuses, quoi.
Ouais, c'est ça, et il explique, et ça, vous allez être rassurés, que maintenant, il pense avec son cerveau, se défend avec son cerveau et plus avec ses poings. Je ne sais pas si on peut être rassuré.
Je ne sais pas si c'est mieux.
Non.
Dans son cas.
Vous êtes rassuré,
ma pauvre, ça devait être possible de lire des trucs pareils.
Oui, c'était, ouais, c'était une épreuve. J'avoue, mais ça m'a fait rire.
Qu'est-ce que tu as appris d'autre ?
Pour Kamala Harris, c'est moins rigolo que surprenant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai découvert ça. Kamala Harris a été élue plusieurs fois à des postes différents. Et en 2010, elle a été élue procureure générale de Californie. Et elle a dû attendre 3 semaines, en fait, pour avoir les résultats du scrutin. Les résultats n'étaient pas tous comptabilisés. Et en fait, elle raconte comment le soir même, le candidat qui était opposé à elle a annoncé trop tôt sa victoire. Et donc, ça a donné lieu à des situations un peu cocasses. Et finalement, 3 semaines plus tard, elle a été mise au courant.
C'est qu'elle avait rempli. C'est un entraînement, en fait.
C'est assez drôle de voir, de lire ça maintenant. Et peut-être pour finir, une autre chose qui m'a un peu étonnée, c'est le fait que donc Kamala Harris, dans son essai, elle ne mentionne jamais Trump explicitement. Il est suggéré, parce que voilà, elle est déjà en poste, elle est déjà sénatrice quand Trump est à la Maison Blanche, mais elle parle de président, du président de la nouvelle Maison Blanche, et jamais on lit le nom de Trump. Donc voilà. Et
on c'est un peu comme Voldemort.
On ne sait pas pourquoi. Qu'on ne peut pas nommer. C'est un peu
mais
ça.
Fun fact, le père de Kamala Harris s'appelle Donald G. Harris. Mm-hmm. Donc peut-être que pour elle, de parler de Donald G, ça crée un truc, je sais pas, daddy issues, j'en sais rien.
On en a plein de choses ce soir.
Un peu trop deep là.
Je sais pas, attends, il est 1h23. On peut faire de la psychologie de comptoir. Je pense que c'est totalement autorisé.
On fait tout. Et la mère de Donald Trump s'appelle Kamala.
Non,
je crois pas.
Non, je pense pas.
T'as d'autres trucs un peu croustillants dans ses mémoires ou pas?
Oui, en tout cas, moi, ce que je trouve qu'on découvre d'intéressant aussi, je le disais un peu tout à l'heure sur Kamala Harris, donc c'était une vraie habituée des élections, et on découvre le côté, son côté personnage politique vraiment tenace, et donc voilà, elle a gagné de nombreuses élections, élections au poste de procureur de district de San Francisco, procureur général de Californie, deux fois, puisqu'elle a été réélue, élection pour devenir sénatrice. Et elle raconte aussi sa première élection qui était quand elle était étudiante en droit à l'université d'Howard à Washington. Et donc voilà, elle candidatait pour être représentante des étudiants en première année. Ensuite, pour le livre de Trump, ce que j'ai trouvé surprenant, c'est il commence son livre par une présentation jour par jour de ses activités professionnelles. C'est un peu une semaine dans la peau de Trump. En quelque sorte, c'est passionnant. On apprend entre autres qu'il ne prend jamais de pause déjeuner, qu'il ne quitte jamais son bureau avant 18h30. On pourrait se dire que c'est plutôt raisonnable, mais
ouais,
il explique qu'il passe des coups de fil jusqu'à n'en plus finir le soir. Et il se met vraiment en scène comme un bosseur, un vrai Américain qui travaille dur.
Ça ressemble, beaucoup au podcast un peu de développement personnel et d'entrepreneur que tu vois
business,
sur les réseaux qui circulent. Ouais,
c'est complètement
ça. Sur LinkedIn, précurseur, une fois de plus.
Tu peux dire sur LinkedIn.
Ouais, mais pas que. Sur Instagram, t'as beaucoup de contenu comme ça. TikTok, tu sais, genre avec une musique.
Non, mais c'est un algorithme pété, hein, pardon, mais.
Je vois pas les mêmes choses.
Non. Moi, je vois des chats sur Instagram, meuf. Pardon, excuse-nous.
Incompatible. Pardon,
non, des chats entrepreneurs.
Voilà. Il met vraiment en scène, effectivement, ce personnage de travailleur qui a bossé dur pour arriver là où il en est. Et quelque chose que j'ai trouvé assez. Cocasse, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais en fait, Trump se pose un moment un peu en défenseur des Américains précaires parce qu'il raconte qu'une certaine Madame Hill, si je ne me trompe pas, Madame Hill, une vieille dame originaire de Géorgie, qui se battait à l'époque pour sauver sa ferme, parce que et son mari venait de se suicider à cause justement de leurs problèmes financiers. Elle avait des dettes jusqu'au cou, et Trump raconte comment lui et d'autres personnes ont contribué à créer un fonds pour sauver la propriété familiale. Donc il se dessine un peu comme un héros du peuple. Mais quelques lignes plus tard, on déchante vite, puisqu'il parle des locataires d'un projet immobilier à Cincinnati, dans l'Ohio. Et là, vraiment, ça tourne à la caricature. Il parle de gens qui ont, je cite, 7 ou 8 enfants, les enfants qui ravagent l'appartement, qui détruisent tout. C'est toujours les citations de Trump.
Oui, voilà. Donc Trump au grand cœur, mais après, il parle des sans dents, quasiment. OK.
Voilà.
Du coup, de lire ces deux ouvrages-là, maintenant, à la veille des élections, qu'est-ce que ça fait?
C'est difficile de les comparer parce qu'ils n'ont pas été publiés en même temps, ils n'ont pas les mêmes fonctions, les mêmes objectifs, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qu'ils annoncent. Pour Kamala, elle se présente déjà dans son livre comme une héritière d'une certaine vision du multiculturalisme à l'américaine. Je crois que vous le disiez tout à l'heure sur le plateau, mais effectivement, elle a beaucoup revendiqué dans sa campagne présidentielle là, son héritage indien par sa mère et son héritage jamaïcain par son père. Dans le livre, c'est complètement mis en scène aussi. Elle revient sur son enfance à Oakland et à Berkeley en Californie, sur l'importance qu'a eu la communauté noire, la communauté africaine-américaine dans son éducation. Voilà, elle raconte notamment comment sa mère passait du Nina Simone dans la maison, Aretha Franklin, et voilà, elle a vraiment côtoyé des grandes figures de la communauté africaine-américaine. Et je pense qu'une des choses aussi qui est intéressante de lire en ce moment, c'est la manière dont ils racontent et ils mettent en scène leur famille de manière très différente. Parce que Trump, dans l'art du deal, parle assez peu de sa famille. Enfin, il parle de son enfance, la manière assez traditionnelle dont il a été élevé. Il parle de l'influence de son père, Fred Trump. Je crois que vous en avez aussi parlé tout à l'heure, mais avec qui il a travaillé, pour qui il a travaillé au début de sa carrière. Mais il mentionne assez peu sa nouvelle famille. Ivana, sa première femme, est très peu mentionnée, sauf pour parler des projets sur lesquels elle a travaillé avec lui. Et leurs trois enfants, qui sont Donald Junior, Ivanka et Eric, sont quasiment pas cités, sauf pour dire de Donald Junior, je cite, il doit avoir mes gènes, cet enfant ne prend pas, enfin ne sait pas tenir compte d'un nom. Voilà, c'est assez intéressant.
Mais c'est que boulot avec la famille.
Ça explique pas mal de choses quand même.
Non, il y aurait une bonne psychanalyse à faire, je pense.
Apparemment, on n'a plus le droit de faire de la psychologie de comptoir, donc je me lance pas.
Si, complètement.
Pardon, vas-y.
Harris, elle, c'est intéressant parce qu'elle met vraiment en scène une vision de la famille américaine moderne. Elle raconte comment elle a rencontré son mari, l'avocat Doug Emhoff, et comment ils ont recomposé une famille avec ses deux enfants à lui. Voilà, donc elle s'improvise. Belle-mère en dînant tous les dimanches soirs, en cuisinant le dîner tous les dimanches avec... Elle le met vraiment en avant. J'étais assez étonnée même de tous les détails, le niveau de détail de...
Elle donne des recettes ?
Ces anecdotes. Elle donne des recettes, je ne me rappelle pas, mais oui, complètement. Ah. Elle donne pas mal de recettes, elle aime cuisiner.
Enfin, caler une recette dans une autobiographie, c'est stylé.
Ouais. Enfin, la recette, elle parle des plats.
Mais c'est dingue. On peut poser des questions. Du coup, ouais, j'ai poser des questions, mais ça en fait des clubs de lecture parce qu'on va pouvoir lire la biographie,
oui.
L'autobiographie.
J'avoue. On peut faire un club de lecture.
Exactement, le club Kamala Book.
Sur le bouquin de Trump, quelle a été ta perception par rapport à sa vision des femmes ? Est-ce qu'il y a des choses qui transparaissent ? Enfin, par exemple, le fait que tu dises que ses épouses sont absentes du récit, ou quasiment, si ce n'est d'un point de vue professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ? On ne peut pas me dire non, c'est déjà assez significatif.
Oui.
Voilà, je pense qu'on peut en tirer pas mal de conclusions entre nous ce soir. Mais quelle a été ta perception par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose ou rien ou...
Ouais, c'est intéressant ce que tu demandes parce qu'effectivement c'est un peu contradictoire parce que donc il mentionne effectivement sa femme Ivana, je le disais tout à l'heure pour parler de ses qualités, elle était pas exactement décoratrice d'intérieur mais elle travaillait vraiment dans la décoration intérieure de ses projets immobiliers. Donc elle est mentionnée pour ça, pour ses qualités professionnelles. Il y a des passages au milieu du livre, je crois, quand il parle, et ça c'est mis en scène dans le film The Apprentice de Ali Abbasi là qui était au cinéma ces dernières semaines. Il parle du club qui s'appelle Le Club, donc dans Manhattan, je crois, si je dis pas de bêtises, dans lequel il y avait des personnes hyper élitistes. Enfin, c'est un club très sélect, il faut être approuvé pour rentrer. Et il parle, je me rappelle d'une description de femmes qui sont décrites comme étant pas très intéressantes et qui sont là juste parce qu'elles sont jolies. Donc voilà, c'est un passage sexiste sympathique. Ensuite, parfois, j'ai aussi été étonnée parce qu'il parle de... certaines femmes, je me rappelle plus forcément leur nom, mais qui reconnaît pour leur qualité professionnelle, en disant c'était la première femme à travailler dans tel secteur de l'immobilier. Voilà, c'est un peu les choses que j'ai retenues. Mais bon, c'est pas un grand progressisme.
Mais merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup, Emma.